le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue sur la fréquence de la paix. Vous écoutez le magazine des Nations Unies, tout de suite les titres. Au moins 9 meurtres de civils et 32 disparitions forcées dans le cadre de l'opération Likofi ou coup de poing organisée par la police nationale congolaise de novembre 2013 à février 2014 à Kinshasa. C'est le résultat du rapport d'une enquête menée par l'ONU, rapport que le gouvernement juge partial et partisan. Martin Kobler, pour une action concertée entre les FARDC, la MONUSCO et les forces américaines afin de venir à bout des rebelles ougandais de la LRA à Dungu en province orientale, le chef de la MONUSCO est notre invité ce dimanche. Enfin, lutte contre la pauvreté et la faim, c'est l'un des objectifs du millénaire pour le développement. La journée mondiale consacrée à cette lutte a été célébrée le 17 octobre dernier. Le magazine des Nations Unies décrypte pour vous le concept de pauvreté et l'appui du PNUD pour combattre ce fléau en RDC. C'est avec un conseiller au bureau de cette agence. Voilà tout pour les titres de cette édition.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour. L'actualité de cette semaine, c'est d'abord la publication mercredi dernier d'un rapport sur les violations des droits de l'homme en RDC. Ce rapport s'appuie sur des enquêtes menées par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Il recense le meurtre d'au moins 9 civils et la disparition forcée de 32 autres, des crimes qui auraient été commis par des éléments de la police nationale congolaise dans le cadre de l'opération Likofi ou coup de poing organisée entre le 15 novembre 2013 et le 15 février 2013. 2014 à Kinshasa. Le point avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Le bureau conjoint a pu rassembler 70 témoignages provenant de diverses sources, des employés des hôpitaux et centres de santé et des responsables de la police nationale elle-même. Le rapport impliquait notamment les éléments de la Légion nationale d'intervention et du groupe mobile d'intervention. Et toujours selon ces documents, la plupart des meurtres et des disparitions forcées auraient été perpétrés généralement la nuit par des éléments cagoulés et à bord de véhicules sans plaque et d'immatriculation. Scott Campbell, directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme.
Les enquêtes menées par notre bureau ont permis de confirmer des exécutions sommaires à l'encontre d'au moins 9 hommes, dont un mineur, dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa, à savoir Bumbu, Selembao, Limete, Ngiringiri, Ngaliema, Lingwala et Kalumu, pendant l'opération Likofi. L'âge des victimes serait compris entre 17 et 30 ans, et selon les informations à notre disposition, les exécutions sommaires ont été commises par armes à feu. La majorité aussi des victimes ont été tuées dans leur quartier, et parfois même à la sortie de leur domicile.
Et aussi des disparitions forcées.
Et nous avons aussi pu vérifier 32 victimes de disparition forcée, dont 3 mineurs, pendant l'opération Likofi. Et ceux étaient commises dans les communes de Kisenso, Mongafula, Limete, Lingwala, Ngaba, Kalamu, Makala, Masina et Lemba.
Devant cette situation, le rapport fait quelques recommandations, plus particulièrement aux autorités congolaises.
D'abord aux autorités congolaises, une recommandation spécifique qui est des enquêtes promptes, indépendante, crédible et impartiale sur toutes les allégations de violation des droits de l'homme commises dans le cadre de l'opération Likofi et de traduire en justice tous les auteurs présumés de ces violations, quel que soit leur rang. Une deuxième recommandation à la PNC est de ne pas courir à l'usage excessif de la force lors des opérations de maintien de l'ordre et de respecter les principes de base sur le recours à la force et l'utilisation d'armes à feu. Et cette recommandation, évidemment, sera de plus en plus importante dans le contexte préélectoral.
Enfin, le bureau conjoint s'est réjoui de la décision du commissaire général de la police de mettre en place une commission d'enquête sur toutes les exactions commises dans le cadre de l'opération Likofi. Et il en attend les conclusions.
Au lendemain de la publication de ce rapport, le gouvernement congolais monte au créneau et juge ce document de partial et partisan. Pour le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC, remplit les conditions pour être déclaré persona non grata et demande donc au secrétaire général de l'ONU de retirer Scott Campbell de la RDC. Autre actualité de la semaine, les 15 et 16 octobre, le bureau de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, s'est associé au gouvernement congolais pour commémorer les journées mondiales consacrées respectivement à la femme rurale et à l'alimentation. Malanji Makulu, une bourgade de la périphérie de Kananga au Kasaï occidental, a été choisie pour recevoir cet événement. Le représentant de la FAO en RDC a expliqué l'intérêt de cette double manifestation. Les propos de M. Ndia Gay sont recueillis par André Kambala Moujanaï.
En choisissant cette année le thème de la Journée mondiale de l'alimentation, l'agriculture familiale, nourrir le monde, préserver la planète, nous poursuivons l'objectif de mieux faire connaître l'agriculture familiale et les petites exploitations agricoles en attirant l'attention de la communauté internationale sur le rôle important que cette agriculture familiale joue dans la lutte contre la faim et la pauvreté, l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le renforcement des moyens d'existence et la gestion durable des ressources qui passent nécessairement par la protection de l'environnement, notamment dans les zones rurales. En République démocratique du Congo, le gouvernement a judicieusement pris l'option de célébrer les deux journées que je viens de citer ensemble. Parce que lorsqu'on parle de l'agriculture familiale et du monde rural, l'implication de la femme a été identifiée comme étant la clé du développement et de la sécurité alimentaire dans beaucoup de pays.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le 17 octobre, c'était vendredi dernier, et chaque année à cette date, la communauté internationale marque son engagement à lutter pour l'élimination de la pauvreté. À cette occasion, le magazine des Nations Unies a reçu M. Charles Wasimaka. Il est conseiller à l'environnement au bureau du PNUD en RDC. C'était pour définir le concept de pauvreté, mais aussi pour parler des actions d'appui du PNUD au gouvernement contre la pauvreté en République démocratique du Congo. Charles Wasimaka répond aux questions d'Honoré Missinga Kalala. Suivez.
Charles Wasikama, bonjour.
Bonjour.
Le monde célèbre ce 17 octobre, comme chaque année, la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Le PNUD, dont vous êtes l'un des cadres, a pour vocation l'appui à la lutte contre la pauvreté. Commençons d'abord par le concept lui-même. Qu'est-ce qu'est la pauvreté?
La pauvreté a plusieurs définitions théoriques, mais en un mot, c'est un état de manque par rapport aux éléments de base pour vivre dignement dans une société et dans un contexte donné.
Alors, plus de 71% des Congolais vivent avec moins d'un dollar par personne, par jour, selon un rapport mondial sur le développement humain. Quelles sont les grandes articulations du programme d'appui à la lutte contre la pauvreté, donc le programme du PNUD, votre agence?
Au niveau du PNUD, il y a d'abord deux grands aspects. Le premier aspect s'occupe vraiment de la création d'un cadre qui soit propice à la lutte contre la pauvreté, donc qui touche au problème de démocratie, appui à la démocratie et appui à la paix, parce que la paix est vraiment un facteur fondamental pour essayer de construire le développement. L'autre aspect vient au niveau de terrain, c'est-à-dire que comment arriver à impulser une croissance inclusive et amener le pays à adopter le sentier du développement durable. Mais dans le pilier, nous avons des composantes. Il y a la composante qui s'occupe des aspects de justice et de sécurité. Il y a une autre composante qui s'occupe des aspects de renforcement du Parlement. Il y a une autre composante aussi qui s'occupe de la décentralisation qu'on a commencé en RDC. Le deuxième pilier essaie de mettre à disposition des populations des moyens d'existence durable. Comment être autonome, se prendre en charge, avoir des activités génératrices de revenus. Un autre pilier s'occupe de la problématique qui est de plus en plus croissante actuellement, c'est celle de l'environnement, le changement climatique et l'économie verte. Ça aussi, c'est un élément à prendre en compte si on veut vraiment lutter efficacement contre la pauvreté. Il y a aussi la planification et le suivi et l'évaluation du développement. Le pays reçoit des appuis de différents partenaires au développement, mais comment faire que ces appuis soient gérés de manière efficace? Tous ces aspects, c'est des aspects autour desquels le PNUD articule ses appuis au niveau national.
Vous avez parlé aussi de la croissance inclusive. Ça veut dire quoi?
Ça dit que la croissance ne crée pas la marginalisation. Donc on intègre les bénéficiaires, entre guillemets, au processus de génération de revenus pour améliorer le niveau de vie. On appelle ça parfois la croissance pro-pauvre. Il faut que la croissance puisse amener les gens qui sont en dessous de cette pauvreté à sortir.
Oui, mais concrètement, ça se fait comment? Il y a quand même des projets.
Il y a beaucoup de projets.
Par exemple?
Oui, par exemple, nous avons un projet, n'est-ce pas, qui essayent de développer les micro-centrales électriques. On sait qu'on a beaucoup de cours d'eau en RDC, il y a beaucoup de possibilités de générer de l'énergie. On sait que si on peut amener les populations à accéder à l'énergie, elle-même peut arriver à créer son propre emploi, etc., etc. Donc, ça c'est un aspect. Un autre aspect, on a une série de projets qui se font pour aider les populations agricoles à améliorer, n'est-ce pas, leur résilience par rapport au choc climatique. Parce qu'on a vu que partout, il y a le climat, il commence à devenir un problème. Et il y a un projet qu'on a appelé projet d'appui au secteur agricole, PANA ASTA, qui a permis d'identifier des semences qui soient résilientes aux variations climatiques et des semences qui peuvent résister. Et on veut le multiplier maintenant pour que les populations agricoles au niveau du Bandundu, du Katanga, du Kasaï oriental, du Bas-Congo, comme province pilote, commence déjà à accéder à ce genre de semences.
Alors, toutes ces actions s'alignent dans le programme du gouvernement, le DCRP.
La démarche dans tous les pays où le PNUD agit est de travailler avec le gouvernement. Tout part d'un diagnostic qui s'est fait au niveau national pour voir quels sont les problèmes de développement. Ensemble, on le voit. Et le PNUD, en fonction de son mandat et des limites de son cadre stratégique, essaie de voir comment appuyer le gouvernement à résoudre ces problèmes. Pas seul, quoi, mais on le fait en synergie avec d'autres agences de développement. Il y a des cycles de 4 ans de programmation où on commence d'abord par faire un bilan pays, on voit les problèmes de développement et chaque partenaire de développement choisit l'appui qu'il peut apporter au pays en fonction de son mandat. Et nous aussi, on le fait en fonction du bilan qu'on a fait en IRC, notamment qui est ressorti dans le DCRP. Et puis, nous sommes flexibles en fonction de l'évolution, n'est-ce pas, des priorités du gouvernement, on s'adapte. Il y a le DCRP, il y a aussi le programme où on parle de la révolution de la modernité. Donc tout ça, on le fait avec le gouvernement. Nous, on ne travaille qu'avec la permission, l'aval du gouvernement. On vient en appui aux priorités gouvernementales.
Oui, mais comment relever concrètement le niveau de vie de la population dans un contexte d'après-guerre, pour la région de l'Est par exemple?
Je vous ai parlé tout à l'heure de notre programme de croissance inclusive, en renforçant les capacités. Il y a les capacités humaines, les capacités techniques, financières. Tout ça, c'est inclus dans les actions que nous menons. Il faut que les gens puissent d'abord avoir les capacités, comprendre les choses, les thématiques, les problématiques avec eux dans un processus participatif. On essaye de définir des projets, des programmes. Donc, on va au niveau des provinces, au niveau local, définir des projets qui protègent l'environnement avec la population locale, mais qui en même temps permettent de trouver des alternatives. Par exemple, quand on démontre à la population l'intérêt de garder la forêt, pendant que la population vit même de ses cueillettes au niveau de la forêt, il faut qu'on lui donne aussi des alternatives. Donc on définit l'alternative avec la population elle-même, comme ça il y a une appropriation de projet qui est développé dans le milieu qui concerne. Le projet par exemple de petite subvention du FEM couvre déjà l'Équateur, le Bandundu, le Bas-Congo et une partie de Kinshasa rural. Ça, c'est un exemple. Et c'est une démarche participative qu'on utilise un peu comme ça dans la plupart des provinces. Il y a aussi la plateforme de femmes qu'on appelle le CCP. Je crois que vous avez entendu parler de ça, qu'on appuie au niveau des provinces où les femmes ont subi beaucoup de sortes de violences.
Les provinces de l'Est.
À l'Est, oui. Mm-hmm. Donc, on a la capacité pour développer des activités génératrices de revenus, se prendre en charge, devenir moins vulnérable. Parce que quand on est dépendante, on est exposé à beaucoup de choses. Mais quand on est autonome, on est plus résilient. Il y a l'accès au crédit à travers le programme qu'on appelle programme d'appui au secteur de la microfinance, PASMIF, avec les institutions de microfinance qui essayent de faire que des mutuelles de solidarité s'organisent et puissent avoir accès à des financements pour créer des activités générateurs de revenus. Il y a aussi l'appui aux radios communautaires, radios rurales. Le PNUD est dedans, à l'Est surtout, hein, à l'Est on a fait ça. Et dans le bas, on a commencé ça avec le programme dont j'ai parlé tout à l'heure, le programme d'appui au secteur agricole, avec les semences, pour que les populations soient informées du problème du changement climatique et qu'ils sachent qu'il y a une possibilité aussi d'améliorer, n'est-ce pas, leur résilience avec les semences plus résilientes. Donc il faut que la communication se fasse. Les mutuelles de solidarité, où les gens sont réunis autour d'une mutuelle qui a accès à des financements à travers les institutions de microfinance.
Charles Wasikama, peut-être un message particulier aux populations congolaises par rapport au combat contre la pauvreté.
Oui.
Elle, dont le pays dispose d'énormes potentialités de richesse.
Le message que je peux donner, c'est que la pauvreté n'est pas une fatalité. S'il y a la volonté politique, ça commence par là, si chacun à son niveau, peut prendre conscience de l'ennemi commun qu'on a, c'est la pauvreté, et mettre tout ce qu'il y a de meilleur, tout le savoir-faire, toute la disponibilité dans la lutte, les moyens sont là. Le PNUD a le moyen d'appuyer en partenariat avec tous les acteurs de développement pour appuyer le pays à développer ses capacités humaines, capacités institutionnelles, capacités financières, tout ça, donc pour aller de l'avant. Ce qu'on doit développer, c'est justement la culture, d'avoir une vision commune, de mettre de côté ce qui nous divise pour s'attaquer au problème commun qui est celui de lutte contre la pauvreté.
Monsieur Charles Wasikama, merci.
En bref, donc cette émission Main propre, zéro microbe, c'est le message du gouvernement pour la célébration de la journée de lavage des mains en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'UNICEF. C'était le 15 octobre dernier. Le gouvernement congolais et l'UNICEF ont un programme conjoint dénommé Village et École Assaini. Son but, sensibiliser les populations à l'importance du lavage des mains au savon ou à la cendre comme moyen de prévention efficace contre les maladies diarrhéiques et respiratoires. Prix UNFPA 2013, la troisième édition du concours est lancée. Le bureau RDC du Fonds des Nations Unies pour la Population procède depuis la semaine dernière à la réception des candidatures. Ce prix récompense les meilleurs reportages sur les thèmes liés aux questions de population, notamment la lutte contre la mortalité maternelle, la sexualité, les maternités, les mariages précoces, la prise en charge des infections sexuellement transmissibles et l'implication des hommes dans la planification familiale. Le concours s'adresse aux journalistes de presse écrite, de radio et télévision, ainsi que de la presse en ligne travaillant en RDC. Les reportages sur ces thèmes doivent avoir été publiés ou diffusés entre le 5 mars 2013 et le 20 octobre 2014, date limite de dépôt des candidatures le 31 octobre 2014. Enfin, 28 réfugiés rwandais rapatriés mardi dernier via la frontière de Ruzizi. Ces personnes provenaient de Masisi au nord Kivu et de Kalehe dans le sud Kivu. Un convoi HCR, Commission nationale des réfugiés, les a accompagnés au camp de transit de Nyagatare, près de Kamombe, au Rwanda.
Magazine des Nations Unies, invité.
Le patron de la MONUSCO, Martin Kobler, préconise une collaboration améliorée entre les forces armées de la RDC, FRDC, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, US Africom et la MONUSCO dans la lutte contre les rebelles ougandais de la LRA à Dungu. Monsieur Kobler s'est rendu dans ce territoire la semaine dernière en compagnie d'un représentant de l'ambassade américaine et de l'ambassade du Maroc en RDC. Il répond aux questions de Michel Kifindangoy.
Monsieur Martin Kobler, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici en mission à Dungu. Quel est l'objet de votre mission?
Je suis ici pour la deuxième fois dans un an maintenant et ça me fait un vrai plaisir d'être ici aussi avec l'ambassadeur du Royaume du Maroc et aussi avec l'ambassadeur adjoint des États-Unis. L'objectif, c'est de discuter avec mes collègues ici sur place une coordination améliorée dans le combat contre les LRA ici parce que c'est un objectif qui est important. On a un problème sécuritaire. Le deuxième, c'est que nous avons eu cette cérémonie avec le tribunal de la paix. Alors, on a inauguré avec l'administrateur du territoire et le président du tribunal le projet QUIPS de la MONUSCO aujourd'hui. Je crois que c'est très important d'avoir ce symbole de justice ici. C'est du progrès de promouvoir la justice ici. J'avais un entretien aussi avec la CENI, avec l'administrateur du territorial pour être informé sur le problème pressant du territoire. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi, l'interaction avec la société civile. Je viens d'une réunion avec la société civile ici. On ne doit pas sous-estimer le rôle de la société civile ici à Dungu. Ici, j'ai vu des hommes, des femmes qui ont été très très engagés.
Justement, en rapport avec l'inauguration du tribunal de paix, le commissaire du territoire a fait état de multiples violations des droits de l'homme ici à Dungu par les éléments de LRA. Est-ce que vous pensez qu'avec la construction de ces bâtiments, ça pourra apporter une solution dans la lutte contre l'impunité?
Voilà, c'est une solution, disons plutôt une contribution dans la lutte contre l'impunité. Il faut résoudre le problème des LRA avec aussi les militaires. Alors, nous avons US Africom ici, nous avons nos troupes ici, nous avons des patrouilles, des Marocains qui contribuent à la stabilisation. C'est ce que la société civile a dit aussi, qu'il faut continuer ces actions de patrouille, mais aussi des combats dans la Prousse contre les LRA.
Justement, en rapport avec la lutte contre les LRA, on a fait état d'un manque de coordination dans les opérations. Il y a l'armée américaine qui ne sait pas collaborer avec les troupes de la MONUSCO, mais aussi avec les FARDC. Est-ce que vous êtes arrivé à trouver une solution pour qu'il y ait une bonne coordination?
Oui, tout à fait. On a une coordination sur le niveau d'échanger les informations, mais on n'a pas encore des patrouilles conjointes. On est en train de le dire. Et c'est une chose qu'on fait maintenant. Voilà, on peut toujours améliorer la coordination. C'est aussi un objectif de ma visite ici.
Et en rapport avec votre échange avec la société civile, est-ce que vous avez relevé certains problèmes particuliers?
Voilà, on a levé les problèmes sur des violences sexuelles ici, à la performance aussi de notre force. Je voudrais savoir de la société civile qu'est-ce qu'ils pensent sur la performance de notre force, de la MONUSCO. Ils ont dit, alors ils sont très satisfaits par les patrouilles, ils sont très satisfaits aussi avec les bases que nous avons au dehors de Dungu, parce que ça contribue à la stabilisation et à la sécurisation. Si on n'a pas de présence de la MONUSCO, ensemble avec les FARDC, les gens sont très très inquiets.
Vous avez dit que effectivement la MONUSCO doit à la longue restituer sa mission aux humanitaires, mais vous êtes inquiet du fait que plusieurs humanitaires sont en train de fermer. Face à ces problèmes, qu'est-ce que vous comptez faire?
On pense à une restructuration. Au contraire, on a renforcé l'est du pays, on a réduit la présence de la MONUSCO à l'ouest, à Mbandaka, à Bandundu, afin d'avoir le personnel transféré ici à l'est. On est en train de renforcer l'est. Mais à long terme, si on pense qu'est-ce qui se passe après 5 ans, il faut penser à réduire la MONUSCO. Maintenant, c'est en particulier dans les territoires affectés par les activités des groupes armés, c'est pas le temps de penser à une réduction de la MONUSCO. On a réduit la MONUSCO à l'ouest du pays afin d'avoir plus de personnel ici à l'est, parce que notre tâche, c'est d'aider les Congolaises et les Congolais, de leur donner la sécurité, de stabiliser la situation, mais c'est pas assez de stabiliser seulement, il faut développer la région, avec ce qu'on fait, pas ici, mais dans d'autres territoires, les îlots de stabilité, d'avoir un développement socio-économique et un vrai développement. Mais une chose est très importante, nous ne sommes pas ici pour remplacer le gouvernement. Le gouvernement doit agir. Tout ce que nous pouvons faire, nous, MONUSCO, c'est de vous assister, c'est de renforcer l'efficacité de l'FARDC dans leur combat contre les groupes armés. C'est notre tâche, pas de prendre la fonction des FARDC.
Monsieur Martin Kobler, je vous remercie.
Et pour la nouvelle des provinces, rendons-nous à l'Équateur. Le projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole par SA accuse un grand retard dans son exécution. Il ne reste plus qu'une année et demie pour que ce projet de 5 ans arrive à terme. Mais sur le terrain, fort est de constater que les objectifs que le Barça s'était assignés sont loin d'être atteints. Voilà pourquoi la FAO vient d'initier une formation de 3 jours pour aider les exécutants de ce projet à récupérer le temps perdu. Le point avec Dominique.
Les différentes évaluations du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole faites dernièrement font état des grands retards de réalisation de ce projet de 5 ans qui bénéficie du financement de la Banque mondiale à hauteur de 120 millions de dollars. Pour Jérôme Kasongo, chargé des planifications à la FAO, l'atelier qu'organise son agence a pour but d'amener les participants, multiplicateurs des semences, inspecteurs de l'agriculture, organisations paysannes et d'appui conseil, à la mise en œuvre d'une stratégie accélérée pour récupérer les temps perdus. Il consiste à identifier et à analyser les principales contraintes actes liés à la production et à la commercialisation des produits agricoles, notamment la mise à la disposition des paysans des semences améliorées et la réhabilitation des infrastructures routières pour la commercialisation de ces produits. À en croire Benan Jaji, coordonnateur national du service national de vulgarisation et des animateurs de cet atelier, tout est possible pour amener les PARSA à atteindre ces objectifs, à condition que les organisations d'appui conseil appliquent les systèmes de vulgarisation accélérée et les méthodes axées sur les résultats. Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapangi, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
Alain Mouzi pour la télévision Sango Malamou. Monsieur le porte-parole, je reviens sur l'enlèvement de 40 femmes en Ituri qui serait l'œuvre de Maï Simba de Morgan. Vous pouvez nous décrire les circonstances de ce kidnapping des femmes et où se trouverait-elle actuellement?
Nous avons le colonel Félix Sebas, porte-parole militaire de la MONUSCO. Que répond-il à cette question? Suivez la réponse.
Cette mauvaise nouvelle que nous avons apprise, évidemment, est survenue il y a quelques jours dans cette région-là. 40 femmes qui étaient vers la zone minière de Souma ont été kidnappées parce que, comme vous le savez, Maï Simba est devenu beaucoup plus actif en vue de contrôler toutes les zones minières qui sont dans cette région de Mambasa. Il faut signaler que cet acte odieux a été perpétré à peu près à 170 km au sud-ouest de Mambasa Centre, donc 7 jours de marche à partir de Mambasa Centre pour accéder dans cette zone qui est quand même assez hostile et qui est difficile d'accès. Mais les troupes congolaises sont déployées, soutenues par la MONUSCO, pour traquer justement ces éléments Maï Maï Simba en vue de libérer les victimes et ensuite de réduire à néant les activités de ce groupe.
Magazine des Nations Unies, Portrait du jour.
Je m'appelle Djibo Abdou, je suis le chef de la section d'appui à la justice de la MONUSCO à Goma. Je suis né en janvier 1967, je suis de nationalité nigérienne, je suis marié, père de deux enfants. Je suis titulaire d'une maîtrise en droit de l'université de Niamey au Niger, mon pays. Après la maîtrise en droit, j'ai été admis à l'école de la magistrature au Burkina Faso où après 2 ans de formation, je suis sorti avec un diplôme de magistrat. Après ma formation professionnelle, j'ai été affecté directement dans une juridiction de mon pays comme substitut du procureur où j'ai exercé pendant 6 ans et demi comme substitut du procureur. Ensuite, j'ai été affecté au ministère de la Justice du Niger où j'ai travaillé pendant 2 ans. À la direction des affaires judiciaires et des sceaux, relire tous les comptes rendus d'audience de l'ensemble des juridictions de mon pays et pouvoir faire un certain nombre d'observations pour mon directeur de l'époque. Ensuite, après ces 8 années de carrière dans mon pays, j'ai accepté un poste de volontaire des Nations Unies en Haïti comme chargé des affaires judiciaires. J'ai travaillé là-bas pendant 14 mois. Ensuite, je suis retourné dans mon pays et quelques mois après, j'ai pu être recruté au niveau de la MONUSCO où j'ai été déployé à Goma dans un premier temps comme judicial affaire officer et deux ans après, j'ai été promu comme chef de section de la section d'appui à la justice. Mon temps libre, je suis passionné de football, même si je ne réussis pas à beaucoup jouer, donc je peux suivre à la télé les exploits du tout puissant Mazembe ici au Congo. Et dans mon pays, je suis membre d'un club de football où je cotise de temps en temps et à mes heures perdues je peux jouer de temps en temps. Et puis je suis passionné de Scrabble, j'y joue depuis des années. Avant de rejoindre les Nations Unies, j'ai pu jouer 6 championnats du monde de Scrabble. Donc, ici à Goma, c'est un tout petit peu difficile avec le travail qui est très prenant, mais de temps en temps on réussit à jouer avec des amis quelques parties, mais je n'ai plus le niveau d'avant quoi. Donc, et puis bon, j'aime bien la musique congolaise, mais peut-être que je veux décevoir les plus jeunes d'aujourd'hui. Moi, j'aime des gens comme Wendo Kolosoy. Certains Congolais ne les connaissent pas, mais moi, c'est ce qui a bercé mon enfance. Je les aime bien. Et puis, j'ai beaucoup de tubes qui ont fait le tour du monde, qui ne passent plus maintenant sur les chaînes congolaises, mais que moi, je revisite, comme Marie-Louise, par exemple, que j'écoute avec bonheur. Pour les perspectives d'avenir, je me concentre sur ce que je suis en train de faire en ce moment. Et puis, bon, pourquoi ne pas faire carrière au niveau des Nations Unies? Mais pour le moment, vraiment, je me focalise sur les défis que j'ai et j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour qu'un jour le Congo puisse se passer de moi.
magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Une date à retenir la semaine prochaine pour deux événements, c'est le 24 octobre. À cette date seront célébrées à la fois la Journée des Nations Unies et la Journée mondiale d'information sur le développement. Votre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Julien Niamouini était à la supervision. Jean-Pierre Elali Coco à la coordination et Honoré Missenga Kalala au reportage. Lydie Bettina vous la présentez avec plaisir et Paul Badianyama la mise en onde pour vous. L'émission est à réécouter sur notre site internet www.radiookapi.net. Merci de votre fidélité à la Radio de la Paix. À dimanche prochain.